Mais commençons avec l'entrevue dont je vous parlais au début avec Yara El-Gabdan, qui est romancière québécoise d'origine palestinienne, fait un grand parcours de migration née à Dubaï, qui a passé par plusieurs villes avant d'arriver à Montréal à l'âge de 13 ans, qui maintenant écrit en français et qui fait la promotion vraiment de la diversité à travers la littérature, qu'on ait un grand portrait global de qu'est-ce que la littérature au Québec, et elle pense que vraiment c'est plus complexe qu'on pourrait le penser. L'espace pour la diversité au Salon du livre qui a commencé mercredi et qui se finit lundi, plein de belles activités dont elle pourra nous parler et que je pourrais vous en reparler.
Je suis la présidente de l'Espace de la diversité. C'est un organisme à but non lucratif et dont la mission, c'est de faire circuler les livres et la littérature, mais de se servir de la littérature comme lieu de rencontre, lieu de croisement d'idées, de réflexion, d'échange et un lieu pour décloisonner les cultures.
Donc, c'est bien savoir que c'est un OBNL parce que j'avais l'impression que c'était comme une section du Salon du livre également.
Non, en fait, pas du tout. En fait, le salon de l'espace de la diversité, en collaboration avec Mémoire d'Encrier, a loué un stand au salon. Et donc, on est un exposant. On a loué le stand, c'est nous qui animons le stand. Le salon, par contre, a collaboré avec nous beaucoup. C'est une initiative très intéressante pour le salon. Ils nous ont beaucoup aidés pour la logistique. Ils nous ont aidés aussi au niveau pour rendre le salon plus accessible. On avait exprimé notre souhait que des personnes qui n'auraient jamais pensé venir au salon parce qu'ils avaient la perception que le salon n'est pas pour eux et que les enjeux qui sont exprimés, en fait, les animations ne parlent pas nécessairement à leur vécu, à leurs enjeux. Peut-être même que les livres ne sont pas nécessairement les livres, mais ce sont des perceptions du salon et on en a discuté beaucoup avec le Salon du Livre. Puis ils ont été très partants. Nous avons deux libraires extraordinaire qui vont gérer le stand pour nous. La librairie, ils ont libre avec la directrice Mireille Frenet et son équipe et le plateforme Bookwiki qui est un plateforme qui permet la diffusion et circulation des littératures du monde en ligne et qui est aussi un diffuseur. Dès le début, on a décidé qu'on allait vraiment ouvrir cet espace-là puis et discuter de ces enjeux, de ces problématiques auxquelles font face beaucoup de personnes marginalisées à la fois économiquement, socialement, culturellement, qui vivent beaucoup l'exclusion à plusieurs niveaux. Et donc, c'était important pour nous de travailler avec des organismes communautaires pour mobiliser, pour aussi identifier les enjeux et les thématiques qui les concernent. Vraiment marier cette réflexion critique, cette pensée critique à la littérature. Et donc, les auteurs ont été très partants de participer, de faire exprimer à la fois leur côté littéraire, leur création, mais aussi leur côté citoyen. Donc, c'est vraiment un stand à la fois littéraire et citoyen, et éducatif et engagé et critique. Et je pense que c'est très intéressant comme initiative qu'on est en train de lancer.
Il y a deux missions à travers l'espace pour la diversité. On parle du lieu de rencontre, de découvrir la littérature d'autres pays, mais on a aussi l'objectif, l'exclusion. En fait, je me demandais d'après vous, comment ces deux missions-là se jumellent?
Mais en fait, quand on lit la littérature, c'est une fenêtre ouverte au monde. C'est une fenêtre ouverte à l'autre, à d'autres imaginaires. Quand on lit, on sort de nous-mêmes. Donc, si on veut repenser le rapport à l'autre, je crois un bel endroit pour commencer de lire un bon roman, de lire une œuvre qui nous ébranle, qui nous questionne, qui nous interroge. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel que littérature et réflexion sur le vivre ensemble, la diversité, l'exclusion, le racisme et comment on vit avec les autres, comment on crée des relations avec les autres, doit passer par les mots, par l'imaginaire, par la littérature. Je pense que la littérature le fait même naturellement. Et nous, on met en exergue cette capacité des mots de changer le monde. J'y crois profondément. Et quand on pense tout ce qu'on fait pour censurer certains mots, on se dit « Ah, mais c'est parce que les mots sont puissants. Pourquoi on a peur de certains mots? Parce que les mots sont puissants, parce que la parole est puissante, parce que la littérature est puissante. Et nous, on part vraiment de cette conviction-là que la littérature, le livre, les mots, la poésie, la création, l'imaginaire peut en fait nous rapprocher les uns des autres et peut nous permettre même d'aborder des questions taboues que normalement on aurait du mal à exprimer devant quelqu'un qui peut être différent de nous. Mais tout à coup, si on est tous les deux en train de discuter d'un livre qu'on a lu, un roman ou un auteur, ça nous amène sur un autre plan. Et c'est ça qui est intéressant, cette vision qui se fait par la littérature.
J'ai vu que vous-même, vous vous engagez dans les luttes féministes, antiracistes, vous êtes impliqué dans des thèmes comme la diversité, le racisme, la littérature postcoloniale. C'est à quel moment que vous-même, vous avez découvert le pouvoir des mots?
J'y ai toujours cru. Je suis quelqu'un qui, depuis l'enfance, j'ai eu la chance, le bonheur d'être entourée de livres. En fait, juste pour vous donner un petit exemple, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais 13 ans, je parlais pas le français, j'étais toute seule, je n'avais pas encore fait des amis. Et qui était mon seul compagnon? C'était la bibliothèque. Donc après l'école, j'allais l'après-midi et je lisais. Je passais mon temps avec les livres. Et c'est comme ça que je me suis construite un imaginaire, que je me suis construite moi-même. C'est comme ça aussi que j'ai développé ma langue imaginaire et tout. Donc pour moi, ça n'a jamais été une question. Le pouvoir des mots, ce qui nous fait humains, c'est la langue. Le fait qu'on puisse se représenter à travers des mots, puis qu'on puisse réinventer le monde à travers des histoires, à travers des poèmes. Tout est possible quand on est. Il n'y a plus rien qui est impossible.
Mais d'ailleurs, j'avais vu que vous êtes née à Dubaï, si j'ai bien compris. Vous avez vécu un long parcours de migration, Dubaï, Buenos Aires, Beyrouth, Sanaa et Londres. Comment votre écriture peut apporter aux lecteurs ou lectrices pour connaître la migration? Comment vous faites pour rendre ces thèmes-là accessibles?
Mais moi, je pense que ce que je vis, c'est ce que de plus en plus de monde vivent. En fait, on vit dans un monde, même si on ne se déplace pas, le monde entier et nous arrive à travers nos écrans, à travers nos voisins. Je dis toujours, en fait, le Québec est dans le monde et le monde est au Québec. On est tous, dans un certain point, nomades. Et on doit tous réfléchir sur notre lieu, sur notre relation à l'autre qui est différent que nous, mais avec qui nous partageons cet espace, cette terre, cette vie, cette ville. Alors moi, la manière que j'aborde ça, j'essaye d'aborder ça à travers la beauté, à travers la tendresse. J'essaye même de quand je parle de guerre, il y a toujours un aspect, je dirais, d'humanité qui pour moi est très important. Pour ça, je travaille beaucoup avec la cuisine, avec l'essence, avec les odeurs, avec tout ce qui rend la vie belle, qui en fait nous permet de nous sentir présents. Et la cuisine, c'est le lieu où on se rencontre, où on se parle. C'est aussi la chose la plus, je dirais, la plus intime au niveau de la culture. C'est les repas que notre mère nous cuisinait. Donc c'est comme ça que j'essaie d'aborder ça. Par exemple, dans le premier roman, je parle de l'enfance et de cette fille-là qui est en train de perdre son innocence, passer à travers la puberté, en train d'aimer pour la première fois, en train de découvrir que le monde est parfois violent. Et ça, toute personne peut s'identifier à ce moment de perte d'innocence et de ce questionnement que, bon, quelle place moi j'aimerais occuper dans ce monde-là. Et quand on parle d'amour, quand on parle de guerre, comme dans le deuxième roman, et quand on parle de décisions difficiles, quand on parle du désir de la femme évoqué dans le deuxième roman, le désir de la femme arabe, je pense qu'on peut tous s'identifier à ces moments de grande passion, à ces limites qui nous font peur et on se pose la question, est-ce qu'on ose aller au-delà des limites que la société nous a prescrites. Je pense que si on aborde ça comme ça, en fait, moi, mon souhait, c'est que quand les gens me lisent, ils ne voient pas l'immigrant et qu'ils voient un être humain. Et je pense que c'est ça que le roman permet. C'est, on oublie que c'est une Palestinienne, une immigrante qui écrit, oublie que, en fait, même le lieu, oublie le lieu. Parce que ce qu'il y a derrière chaque roman, c'est une histoire humaine. Et on est tous des êtres humains. Je pense que là, c'est possible de discuter et d'évoquer les sujets les plus difficiles à travers l'écriture.
Mais j'en profite en même temps pour dire, juste rappeler qu'on a parlé du premier roman, du deuxième roman, que vous aviez publié deux romans, L'ombre de l'Olivier en 2011 et Le parfum de nous en 2015. Justement, il y a l'aspect de l'universalité. Qu'est-ce que j'aime dans l'espace de la diversité, c'est qu'on parle de littérature d'autres pays, qu'on côtoie peu quand même dans nos cursus scolaires, qui est quand même une grande porte d'ouverture à la littérature. Mais outre que le kiosque, comment vous trouvez qu'on fait une place à la diversité, justement, dans la littérature québécoise?
Écoutez, je vais vous dire honnêtement, c'est un combat. Je pense qu'on a encore une certaine idée de ce que c'est que la littérature québécoise. On a une certaine idée de ce que c'est qu'être québécois, de ce que c'est le terroir. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, la littérature québécoise est beaucoup plus riche que vous le croyez. Ici, au Québec, on est vraiment très, très, très chanceux parce qu'on peut, en fait, avoir accès à une perspective sur le Sénégal, sur Haïti, une perspective sur l'Algérie, à partir de l'écriture, de l'imaginaire de nos propres concitoyens, qui sont des auteurs québécois, mais qui portent en eux aussi d'autres mondes, d'autres imaginaires. Et le problème, c'est qu'on a tendance souvent à mettre ça de côté. Bon, il y a la littérature québécoise, il y a la littérature migratoire, migrante ou la littérature de la diversité. Et du coup, on crée des séparations, des frontières qui ne devraient pas exister. Alors, c'est un travail, et le travail de l'espace de la diversité, c'est vraiment ça, d'anéantir en fait ces frontières qui sont complètement artificielles, de changer nos perceptions de ce que c'est être québécois, parce que c'est vraiment beaucoup plus complexe que le discours qu'on entend dans les médias, où on a tendance à dire, voilà, il y a les autres, il y a les grands, voilà, il y a nous, il y a les nouveaux arrivants, puis il y a là, tu sais, il y a même des dates, tu sais, si t'arrives, si ça fait 5 ans, t'es là, t'es un nouveau arrivant, après ça, t'es un néo-québécois, après ça, t'es un je sais quoi. Mais pourquoi toutes ces catégories? Je ne les comprends pas, et je les accepte de moins en moins. Moi, quand j'écris sur la Palestine, ça fait partie maintenant, parce que je suis au Québec, j'écris en français, ça fait partie de l'histoire du Québec. Mon histoire palestinienne ne m'appartient plus à moi seule. Elle appartient aussi à tous mes concitoyens québécois. Quand Martine Fidel, qui est une auteure haïtienne, écrit sur la vie des jeunes femmes en Haïti, on peut se dire, ah, mais ça c'est pas nous. Et pourtant, elle est en train de partager ces expériences-là, et je pense que beaucoup de jeunes femmes vont s'identifier à tous les obstacles, tout le courage aussi de ces personnages-là dans le livre de Martine Fidel. Il faut vraiment aller au-delà de ces conceptions qui pour moi nous limitent, et pour aucune raison. Les frontières existent dans nos têtes et on peut les faire disparaître aussi. Donc là, on va avoir 25 animations au stand de l'espace de la diversité avec une cinquantaine d'auteurs de partout du monde. On a un auteur, un poète américain d'origine vietnamienne qui va venir pour 3 jours et qui va partager à travers lui, on entre dans l'expérience de l'exil vietnamienne, mais aussi l'expérience de lui en tant qu'auteur homosexuel qui parle avec une telle beauté, mais aussi une telle force. Il ne faut pas les regarder comme des étrangers. On va avoir des animations pour combattre le racisme. Qu'est-ce que c'est pour combattre? C'est pas pour lever le drapeau. Non, les auteurs vont partager ces penseurs et ces auteurs qui les ont aidés à grandir, à dépasser certaines formes d'aliénation, et ils vont les partager avec le public. Donc, on va tous sortir grandis de cette expérience. Et on a des auteurs ici d'origine arabe qui écrivent en arabe, qui écrivent en français, qui écrivent dans plusieurs langues, qui écrivent du Québec et qui publient sur le Québec en Égypte. Donc, il y a des lecteurs égyptiens qui lisent sur le Québec grâce à ces auteurs-là. Pourquoi on ne les connaît pas? Donc, c'est ça la question que je me pose, et c'est ça qu'on essaye, en fait, de combattre, ces limites qui n'ont pas besoin d'exister.
Oui, tout à fait, de passer au-delà du moi et l'autre pour aller au nous.
Mais oui, un vrai nous, solidaire.
Pour conclure, je demanderais si vous auriez des auteurs et autrices à nous faire découvrir.
Honnêtement, il y en a tellement. D'abord, on reçoit l'auteur et intellectuel Céline Sarr, qui est auteur invité à l'honneur au Salon du Livre de Montréal, qui vient du Sénégal, qui est en fait l'un des penseurs les plus intéressants, je dirais, qu'on lit aujourd'hui, qui a une vision pour l'Afrique, qui a une vision pour le monde. On va avoir une animation, donc une bibliographie pour combattre le racisme. On va discuter de Fanon, d'Edouard Saïd, Hannah Arendt, tous ces penseurs. Joséphine Bacon et Gilles Bibeau, donc Gilles Bibeau qui est un anthropologue, un auteur, et qui va venir parler de l'Andalousie, donc qui prend l'exemple de l'histoire de l'Andalousie où les civilisations se sont rencontrées, les civilisations occidentales, chrétiennes, musulmanes, juives, africaines, pour penser aujourd'hui le monde d'aujourd'hui. Comment l'exemple de l'Andalousie peut nous permettre à mieux penser le rapport à l'autre aujourd'hui. Donc, il y aura des activités toute la journée sur le stand. Je vous encourage, vraiment, j'encourage le public à venir rencontrer les auteurs. Ils sont là pour vous parler, pour partager avec vous. Et vraiment dans un esprit, je dirais, de dialogue, de partage, de convivialité et de passion partagée pour la littérature.
Merci à Madame Elle Gabon pour m'avoir donné cette entrevue au début de la semaine. Et on rappelle, le Salon du Livre va se tenir jusqu'au lundi. Et pour faire un petit retour sur les événements qu'elle me parlait, il y a beaucoup d'enfants de panels, de rencontres avec les auteurs à l'espace de la diversité qui ont eu lieu depuis mercredi, mais pour les auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance d'y aller, samedi et dimanche, on a quand même des Belges, donc je voulais vous partager. Donc, elle parlait justement d'un poète américain d'origine vietnamienne qui va être de passage au Salon du Livre. Il sera là samedi à 14h pour un panel qui s'intitule « Nous sommes tous des réfugiés » en compagnie du traducteur Marc Charron et de la romancière Caroline Vu. Pour pour parler justement de l'exil vietnamien et toute l'expérience qui était derrière ça. On aura aussi la chance d'avoir une conférence à 16h30, le même jour de samedi, avec l'écrivain de renom du Sénégal dont elle parlait, Pelouin Sarr, ou encore à 17h, il y en a une que je trouvais vraiment très intéressante qui s'appelle « Un autre Amérique est-elle possible? » Donc, c'est une conversation justement sur les voix, les regards et paysages qui incarnent la lutte et l'espoir des peuples autochtones. Donc, quand on parle de diversité, on parle beaucoup des minorités qui sont arrivées au Québec. On parle aussi des peuples autochtones qui étaient là à la base. Donc, quand on parle de Premières Nations, il faut vraiment leur rappeler que c'est quand même deux situations complètement différentes. Donc, merci quand même, c'est des beaux événements.